Merci, Alvin. Voilà. Voilà, notre texte est clair, donc il a été lu. Donc, on a appris avec notre instituteur préféré. Merci, Michael. Voilà, je vais prier avant d'annoncer la parole. Prions. Merci, Seigneur, pour ta parole, cette parole qui est si claire, cette parole qui dévoile vraiment ton cœur, qui tu es. Et Père, nous voulons te demander de nous aider ce matin par ton esprit. Puisse ton esprit élucider nos cœurs et nous aider à appliquer ce message avec fidélité. Montre-nous Jésus, montre-nous le Père pour sa gloire. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, Jean 3,16, comme on a vu, c'est un petit verset, mais c'est aussi un grand verset, parce que c'est un verset qui nous permet d'aller au cœur de l'Évangile, plus que ça, qui nous permet d'aller au cœur du Créateur du monde. C'est son cœur qui bat, et on le voit bien dans ce verset. Donc, si vous venez à l'Église depuis un moment, ou si vous voulez vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on vient tout le temps à l'Église, bah, ce verset peut vous aider grandement ce matin. Alors bien sûr, ce verset ne remplace pas toute la Bible. Le verset ne dit pas tout. Mais ce verset dit beaucoup de choses. Voilà, et je vais le relire. On l'a déjà lu plusieurs fois. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ce verset parle de l'amour de Dieu. Et vous savez, l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que tout le monde recherche l'amour. Tout le monde en a besoin. Les enfants ont besoin de l'amour de leurs parents. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants tristes qui ne connaissent pas l'amour des parents. Mais en général, les parents aiment beaucoup les enfants. Et cet amour est vraiment capital dans nos vies, central dans la vie humaine. On peut avoir de la réussite, les meilleures notes à l'école, on peut avoir de l'argent, la meilleure carrière qui soit, des richesses, des voyages de partout dans le monde. Mais si on n'a pas l'amour, bah, je pense qu'on commence à ressentir après un peu un sentiment d'échec, un petit peu un vide à l'intérieur. L'amour est très puissant, l'amour est très beau. Et c'est vrai, c'est le plat de résistance des poètes, des philosophes, des écrivains, des peintres, des cinéastes. L'amour fait tourner le monde et c'est au cœur de notre existence. C'est une évidence. Alors, ce n'est pas surprenant que notre monde parle autant de l'amour. Ce n'est pas surprenant que chacun de nous ait besoin de l'amour. Ce n'est pas surprenant que l'amour est au cœur de l'univers parce qu'il est au cœur du Créateur de l'univers, celui qui a façonné la vie, qui nous a façonnés. La Bible nous dit que Dieu est amour, tout court. Mais en fait, il est plus que ça, bien sûr. Il est aussi justice, sainteté, miséricordieux. Mais on voit dans la Bible que son amour est saint et miséricordieux, que sa justice est aimante. Dieu est amour. On va passer quelques instants à voir en détail ce verset Jean 3,16. Nous allons le faire de manière très logique, de manière très cartésienne. Jésus aussi a parlé de manière très claire et très logique. Et l'auteur ultime de ce livre, on sait que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Lui-même, il nous a créés avec cette capacité de raisonner de voix claire. Donc ce matin, on veut voir le fait de son amour. Et ensuite, le comment de son amour, le pourquoi de son amour et le « et alors » de son amour. On va commencer avec le fait de son amour. Et le premier mot qui saute aux yeux dans ce verset, pas littéralement, mais le grand mot, c'est le mot « Dieu ». Alors, c'est vrai pour beaucoup de nos voisins, beaucoup de nos amis, peut-être même quelques amis à l'école. Bah, ils disent que Dieu n'existe pas. Et c'est vrai qu'on ne voit pas Dieu de nos yeux. On ne peut pas sortir de ce bâtiment et voir Dieu. Et pourtant, nous savons qu'il existe. Alors comment ? Nous vivons une belle planète. Une planète qu'il a créée. Voici une belle photo de la création des îles Shetland en Écosse. Voilà, mes îles préférées. Peut-être que vous ne voyez pas bien, mais au fond de la salle, ils voient mieux. Et Dieu nous a créés, nous les êtres humains. On est fait avec tant de sagesse, beauté, on peut regarder à l'intérieur les médecins, c'est extraordinaire. On peut penser également aux animaux, voilà mon animal préféré, les koalas. L'univers dans lequel nous vivons est d'une beauté extraordinaire. Et tous les petits détails, les paysages, nos corps humains, les animaux, crient vers Dieu, un cri qui chante les louanges de l'Éternel. En plus, nous avons Jésus lui-même, cet homme qui est Dieu. Au début de l'évangile de Jean, dans quelques versets avant Jean 3,16, on a ce verset ici. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, donc c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons savoir qu'il est là, parce que Jésus est Dieu. Et Jésus est venu, Dieu est venu par terre pour nous faire connaître Dieu lui-même. Dieu est là. Alors ensuite, nous voyons que Dieu aime. Dieu aime beaucoup. Donc en effet, Dieu a tant aimé. Alors je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous aiment les films La guerre des étoiles, Star Wars. Et dans ces films, on parle d'une force mystérieuse. Ils disent « Que la force soit avec vous ». Alors Wikipédia me dit que la force dans ce film, c'est un champ d'énergie s'appliquant à tous les êtres vivants dans l'univers de la guerre des étoiles. Et elle donne des pouvoirs aux personnes sensibles à elle. Donc il y a cette force un peu mystérieuse. Alors ce n'est qu'un film, bien sûr. Tout ça n'existe pas. Mais Dieu, lui, il existe. Et Dieu n'est pas une force impersonnelle, mystérieuse comme ça. Dieu est personnel. On peut le connaître. Comme on connaît une personne. Et Dieu aime. Il aime beaucoup. Dieu est un Dieu qui est rempli de compassion et d'amour. C'est dans la nature même de Dieu d'avoir cet amour. Et nous, les êtres humains, nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Pourquoi ? Pour le représenter dans le monde. Et c'est pour ça que l'amour est si important pour nous aussi. Parce qu'on est un reflet de notre Créateur. Ce Créateur qui aime aimer et qui est rempli d'amour. Alors c'est vrai, ça n'empêche pas qu'il y ait bien des choses un peu sombres, un peu tristes, un peu moches qui se passent dans ce monde, hein. Il suffit de regarder la télévision, regarder les infos. Il y a des guerres, les famines, il y a de la violence. On le voit dans la vie quotidienne, on l'a vu dans nos vies, on voit ça peut-être à la récré aussi, il y a des choses pas vraiment très belles quoi, qui se passent, pas très agréables. Et Dieu sait que ces choses nous arrivent, et ces choses lui font de la peine aussi. Et Dieu s'est engagé à punir le mal et à refaire toute chose belle. Oh, qu'est-ce que Dieu a aimé autant ? Est-ce que c'est le foot, le sport, ses amis, ses vacances ? Notre verset nous dit qu'il a tant aimé le monde. Alors, ça nous fait penser à notre planète bleue, n'est-ce pas ? Dieu aime cette planète bleue, il a créé. Mais quand ce verset utilise le mot « monde », il ne se réfère pas tout de suite ou directement à cette planète bleue, mais aux habitants du monde. Toutes les personnes qui sont là dans notre monde, le monde qui habite sur cette planète. Dieu aime les êtres humains. Il aime les Algériens, il aime les Camerounais, les Malgaches. Dieu aime les Anglais. Il aime même les Français. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, quelle que soit leur origine ethnique ou linguistique. Et on peut dire plus que ça. Le mot « monde » dans l'évangile de Jean est souvent un mot un peu négatif. Dieu aime ce monde Pourtant, le monde, c'est-à-dire les habitants du monde, n'aiment pas Dieu. On peut parler d'un monde rebelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un monde rebelle ou une humanité rebelle? Ben, cela veut dire que nous n'avons pas aimé Dieu. Nous n'avons pas obéi à Dieu. Dieu nous a mis dans sa belle création. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait semblant que Dieu n'existe pas. On a fait ce qu'on veut, ce qu'on a voulu, ben, sans égard pour lui. Comme si nous étions un peu Dieu à la place de Dieu. En particulier, Dieu nous a donné des commandements, on peut penser aux 10 commandements. On n'a pas à avoir d'autre Dieu que Dieu. On doit l'aimer de tout notre cœur. Nous devons honorer nos parents aussi. Nous ne devons pas voler des objets qui ne nous appartiennent pas. Bref, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et vous savez, nous sommes tous rebelles, nous sommes tous pécheurs. C'est-à-dire, nous avons tous violé la loi de Dieu. Personne n'est juste. Personne n'est innocent. Même les personnes les plus obéissantes qui soient, les plus respectueuses du monde, ben, elles ne sont pas innocentes non plus. Loin de là. Alors, on aime bien penser que nous sommes peut-être un peu meilleurs que les autres. Au moins un peu mieux que les autres dans notre classe, à l'école peut-être, ou dans notre lieu de travail. Mais vous savez, Dieu voit nos cœurs. Il voit l'égoïsme de nos cœurs. Le fait qu'on ne veut pas partager. Le fait qu'on veut tout avoir pour nous-mêmes. Alors, quand j'étais petit, à la maison, lorsqu'il y avait un gâteau à partager, mes parents m'obligeaient à offrir, donc si j'avais découpé, ils m'obligeaient à offrir les autres parts du gâteau à mes frères et sœurs avant moi. Parce que mes parents savaient que si moi, je pouvais découper le gâteau moi-même et ensuite prendre la première part, qu'est-ce que j'allais faire? Ben, j'allais prendre la part la plus grande, quoi. Parce qu'on est comme ça, hein? on est égoïste, on pense à nous-mêmes d'abord. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Parce que c'est dans la nature même de Dieu d'être rempli d'amour pour ces êtres humains, pour nous. Et Dieu a agi avant même que nous changions d'un iota. Alors, on est au comment de son amour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, comment est-ce que Dieu nous a aimés? L'amour n'est pas juste. L'amour de Dieu n'est pas juste une idée ou un concept qu'il a, mais c'est vraiment quelque chose de concret. C'est une action de Dieu. Dieu a fait quelque chose. Il a donné. Le mot donner, c'est un petit mot, mais vraiment, il dit long sur la personne de Dieu. Dieu est un Dieu généreux. Il se plaît à donner. Et cela revient tout le temps dans la Bible, on le voit partout dans les évangiles. Dieu est un père qui aime donner de bonnes choses à ses enfants. Alors, c'est vraiment Jésus qui nous dit ça. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, dans la prière par exemple, c'est parce que nous savons qu'il est bon et généreux. Alors, Dieu n'est pas un distributeur de billets ou de cadeaux. Dieu donne de bonnes choses. Mais des choses qui sont vraiment bonnes pour nous. Parce qu'il veut que nous grandissions en Jésus. Il veut que nous grandissions pour ressembler à Jésus. L'homme le plus obéissant qui soit, l'homme le plus heureux qui soit. Et Dieu nous aide dans la vie quotidienne pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu, à l'aimer plus sincèrement, à la suivre plus fidèlement. Et au fur et à mesure que nous progressons dans la vie chrétienne, nous faisons de plus en plus confiance à Dieu parce que nous découvrons qu'il est un Père qui nous aime et qui est généreux, qui aime donner de bonnes choses à ses enfants. Et Dieu a prouvé son amour envers nous en nous donnant quelque chose de particulier. Dieu a donné Jésus lui-même. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, comment est-ce que Dieu peut donner son propre Fils? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lorsque Jésus a dit ça, parce que c'est Jésus qui a dit ce verset-là, lorsque Jésus dit tout ça, Jésus parle du fait qu'il va mourir, qu'il mourra sur la croix. Alors, c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un Père qui est bon, un bon Père céleste, peut donner son Fils pour qu'il soit mis à mort? C'est terrible, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu n'est pas méchant. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en ce seul Dieu, il y a trois personnes. On parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. Et le mot technique, c'est la Trinité. Alors comment est-ce que ce seul Dieu peut être un et trois personnes en même temps, Père, Fils et Saint-Esprit? Alors c'est difficile à comprendre. Vous savez, même les adultes ne comprennent pas vraiment comment c'est possible, mais c'est comme ça. Dieu s'est révélé de cette manière-là. Et c'est très bien parce que cela veut dire que le Père peut aimer le Fils et le Fils peut aimer le Père. Dieu est un Dieu qui peut aimer parce qu'il est trois personnes. Il sait ce que c'est d'aimer. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Je ne veux pas trop compliquer la chose. C'est parce qu'à la croix, c'est Dieu qui se donne. Dieu se donne, mais en Jésus. Jésus est Dieu. Ce n'est pas un Père méchant qui tue ou fait tuer son Fils, mais Dieu lui-même, parce qu'il nous aime, Dieu se donne. Jésus se donne lui-même. Et Dieu nous aime à ce point-là. Dieu se donne, Dieu donne son Fils, ce qui est le plus précieux pour lui. Vous savez, on ne peut pas comprendre la profondeur, la hauteur et la largeur de cet amour. C'est un amour qui nous dépasse. C'est un amour inouï. Dieu nous aime beaucoup plus que nos parents puissent nous aimer ou que nous puissions aimer nos parents ou notre femme ou notre mari. C'est un amour qui se donne complètement, un amour qui se sacrifie, un amour qui n'est pas égoïste. Et Dieu fait ça pour nous. Nous qui n'aimons pas Dieu, qui ne l'aimons pas de tout notre cœur, loin de là. Alors, on arrive au pourquoi de son amour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors c'est la fin du verset qui nous montre un peu pourquoi Dieu a fait ce geste extraordinaire, ce don absolument extraordinaire. Il a fait afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous périssions. Mais il veut que nous ayons la vie éternelle. De temps en temps, j'aime bien aller voir un film. J'aime bien les films un peu catastrophes. Il y en a tout le temps au cinéma. Et le plus souvent, il s'agit d'une lutte pour la survie de la planète, la survie de l'humanité qui est assiégée. Parfois, c'est des extraterrestres ou parfois, c'est une maladie bizarre. Toujours des choses méchantes et ensuite, l'homme est bon et il lutte pour sa survie. Et je pense que ce genre d'histoire, de récit, nous touche quelque part. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes fragiles. Nous savons que nous sommes fragiles. Nous avons peur. Nous savons que le mal nous guette. Et nous voulons un sauveur. Alors, ce passage ne nous parle pas d'une maladie ou d'un extraterrestre ou d'une catastrophe écologique, mais d'une toute autre catastrophe. Il nous parle de notre propre rencontre avec Dieu. Dans une citation qui est devenue très célèbre par la suite, Catherine II, la reine de Russie, qui était impliquée dans un coup d'État contre son mari, lui a succédé au trône, a dit « Le bon Dieu me pardonnera, c'est son métier. » Et beaucoup de gens pensent comme ça, n'est-ce pas? On dit « Bon, on n'est pas trop mauvais que... » Donc, de toute façon, Dieu sera clément avec moi, quoi. Donc, c'est son métier, il me doit ça. Instinctivement, nous nous mettons un peu du bon côté, on se dit, on n'est pas trop mauvais, on est suffisamment bon, quand même. Mais Jésus lui-même met cette compréhension des choses sens dessus-dessous. Nous avons raison d'avoir peur, d'avoir cet instinct un peu craintif, car nous sommes chacun en grand danger. Et vous savez, ce danger, c'est Dieu lui-même. Ce Dieu qui nous aime tant, c'est son juste jugement que nous devons craindre. C'est lui qui peut nous faire périr. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Et vous savez, Dieu serait juste de nous juger et de nous condamner tous, chacun de nous. Le mot périr, ça évoque l'idée de perte, d'être perdu à tout jamais. Ailleurs dans les évangiles, Jésus parle de l'enfer, une existence terrible, loin de l'amour de Dieu. Une existence où Dieu n'est présent que pour nous juger, pour nous condamner. Alors la Bible ne nous donne pas énormément de détails sur cet état d'existence, l'enfer, cette perdition. Mais la Bible nous invite à fuir ça. Parfois nous disons que nous vivons un enfer parce que quelque chose de terrible nous arrive. Mais ça n'a rien à voir avec cette perdition dont parle Jean 3,16. Cette perdition qui est si totale et permanente. Dieu serait juste de nous juger et de nous condamner. Mais vous savez, Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Ailleurs, dans cet évangile de Jean, Jésus va dire « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Donc c'est Jésus qui le dit dans une prière au Père. « C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la vie éternelle peut commencer aujourd'hui. C'est la vie de quelqu'un qui a fait la connaissance de Dieu, qui connaît Dieu, qui le connaît personnellement, qui connaît Dieu comme un bon Père céleste. Connaître la bonté de notre bon Père céleste, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Et Jésus nous dit que cette connaissance perdure jusque dans l'éternité. Ça dépasse même notre propre mort physique. La meilleure chose que nous pouvons vivre, c'est la présence de notre Dieu. Être avec lui, lui appartenir, connaître son amour. Et la perdition, c'est vraiment le contraire de cette vie éternelle. Alors, comment peut-on s'en sortir? Comment peut-on échapper à cette perdition si terrible? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous sommes à cette dernière section, le « et alors » de son amour. J'ai oublié de mettre les titres, donc rassurez-vous, on est au dernier point. Jésus nous invite à mettre notre confiance en lui, à croire en lui. La suite de l'évangile de Jean va définir un peu plus ce que ça veut dire de croire en lui, de mettre notre confiance en lui, à suivre Jésus coûte que coûte. Et c'est comme ça, en suivant Jésus, en croyant en lui, que nous échappions à cette perdition si terrible. Et c'est comme ça que nous recevons la vie éternelle, ce cadeau, ce don de la vie éternelle. Alors, est-ce trop simple? Comment est-ce que ça marche? Jésus nous dit que Dieu a donné son Fils pour que le Fils porte en lui-même le poids de nos fautes. Le pardon de Dieu, le pardon que Dieu peut nous donner, passe par le don coûteux et sacrificiel de son Fils. Jésus prend sur lui le poids de toutes nos fautes. Il s'agit donc d'un échange. Jésus prend notre place. Volontairement, par amour, Dieu le Père, donne Jésus son Fils, et volontairement Jésus, Dieu le Fils, par amour pour son Père et aussi pour nous, il se donne et il prend sur lui le châtiment que nos fautes méritent. Oui, le châtiment, notre châtiment, tombe sur Jésus au lieu de tomber sur nous si nous mettons notre confiance en lui. Dans un sens, c'est Dieu lui-même, au final, qui prend notre place. Alors, un théologien a dit une fois, le propre du péché de l'homme, c'est notre rébellion contre Dieu. Et ça se trouve dans le fait que nous nous substituons à Dieu, on prend la place de Dieu. Nous nous déclarons des petits dieux qui peuvent vivre à leur manière sans égard pour leur Créateur. Ces consignes, c'est le fait de vivre à notre manière, de dire, voilà, Dieu n'existe pas. Mais le propre du salut de Dieu, c'est que Dieu se substitue à l'homme, il prend sa place. L'homme se met à la place de Dieu, ça c'est le péché. Mais dans le salut, Dieu se met à la place que l'homme mérite, il prend sur lui le châtiment que nous méritons. En la mort de Jésus, Dieu lui-même a subi la juste sanction, le juste punition que Dieu lui-même a infligée. Alors, c'est comme si un juge au tribunal correctionnel, peut-être au tribunal de Nanterre, inflige une amende sur un criminel coupable. Mais au lieu de lui demander la somme, le juge prend son chéquier personnel et il fait un chèque pour le montant requis. Et la justice est satisfaite, l'amende est payée. Et celui qui le criminel, il peut s'en aller. Mais ce que Jésus a fait est bien supérieur, bien sûr, à ce simple paiement. Dieu donne son Fils unique. Jésus donne sa vie, ce qui lui est le plus cher. C'est comme ça que nous pouvons avoir ce pardon complet, cette libération, cette vie éternelle avec Dieu. Et Jésus nous invite à lui faire confiance, à lui qui a pris la place des pécheurs. Il nous invite chacun à venir à ses pieds avec humilité, à cesser de fuir Dieu, à la repousser aux confins, au bord de notre vie. Et lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne mes fautes. Pardonnez-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Prends mes fautes et aide-moi à te suivre, à te faire confiance dans la vie. Je vous invite à la prière. Je projette une prière très simple. Il y en a peut-être qui aimeraient prier cette prière pour la première fois. Peut-être que vous n'avez pas encore fait confiance à Jésus. Vous n'avez pas encore dit à Jésus, « Oui, je veux te faire confiance. » Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Je veux te suivre. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi. Je vous invite, si vous le souhaitez, peut-être à dire cette prière après moi, silencieusement. C'est peut-être mieux de faire comme ça, dans vos cœurs. Et le Seigneur écoutera votre prière. Prions. Notre bon Père Céleste, je veux te dire merci pour ton amour. Merci de m'avoir aimé d'un si grand amour. Merci de nous avoir donné Jésus, ton Fils. Et merci pour son sacrifice à la croix. Je te demande pardon pour mon cœur si rebelle. Je te demande de pardonner mes fautes, mes péchés. Père, je m'appuie sur toi, sur Jésus. Je lui fais confiance. Aide-moi à lui faire confiance. Aide-moi par ton esprit à suivre Jésus coûte que coûte. Amen.